La Covidienne. Du lundi au jeudi, 30 minutes d'actu, virale et collégiale.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans La Covidienne sur les ondes de Radio Campus Angers. On est ensemble pendant une demi-heure pour discuter de l'actualité locale et aujourd'hui on s'intéresse à un sujet légèrement tabou mais dont il faut parler car en effet l'approche des fêtes se lie également à des risques liés à la surconsommation d'alcool et dans les cas les plus extrêmes, voilà, on sait que de nombreuses personnes peuvent être touchées par l'alcoolisme. En France, c'est 11,7 litres d'alcool qui sont ingurgités par an et par personne de 15 ans et plus, et nous sommes 6e au rang de la consommation d'alcool au sein de l'OCDE. Heureusement pour les personnes qui peuvent être touchées, des groupes de parole existent également en ligne. Clémence a pu discuter avec Andrew Daniel, administrateur du groupe d'entraide et d'écoute Sortir de la bouteille. Enfin, comme chaque mardi, pour terminer cette émission, on aura le retour de la chronique d'Amandine. Je vous laisse écouter ça tout de suite. Très bonne émission.
Bientôt les fêtes, les repas de famille, du moins nous l'espérons, avec sur la table une surabondance de nourriture. Pour rincer tout ça, des bouteilles. Vin, spiritueux, champagne, que ce soit sur la table ou sous le sapin. Nous avons une relation assez décomplexée à l'alcool dans notre pays, le vin étant un mets d'excellence, reconnu mondialement. Pourtant, entre le fromage et la bûche, quand les bulles de champagne montent à la tête, certains se retrouvent dans une position délicate. Sans vouloir gâcher la fête, mais plutôt à titre de prévention, rappelons que chaque année en France, 41 000 décès seraient liés à l'alcool. Pour sortir du tabou de l'alcoolisme, Andrew Daniel, administrateur du groupe Se Sortir de la Bouteille, a accepté de témoigner sur notre antenne. Bienvenue Andrew.
Bonjour à vous tous.
Merci d'avance pour vos mots. Vous acceptez assez facilement de vous livrer sur votre passé de dépendance, un passé qui est aujourd'hui révolu. Pouvez-vous nous raconter votre parcours ?
Alors mon parcours est simple. J'ai commencé donc à boire à l'âge de 16 ans, avec une enfance assez difficile, hein, un abandon de la part de ma mère, voilà. Donc je me suis retrouvé à l'âge de 16 ans à boire festivement, à consommer un petit peu de cannabis aussi, et puis et du coup je me suis retrouvé après à 17 ans à boire seul dans ma chambre. Donc ça a été très compliqué à gérer parce que mes amis eux étaient plus dans l'alcool festif et moi j'étais plus dans l'alcool vraiment pour oublier et pour me défoncer quoi, excusez-moi du terme, mais bon, voilà quoi. Et donc du coup j'ai continué à boire. Après j'ai été papa, un heureux événement donc quand j'avais 21 ans. Donc du coup ça a pas changé ma vision de la vie, hein. Ma vie était basée que sur l'alcool, les discothèques sur Angers, les bars sur Angers, j'ai tout fait, j'étais vraiment au plus bas et donc du coup j'ai commencé à ressentir des effets de manque à mes 25 ans, c'est-à-dire qu'un matin je me suis réveillé et j'ai commencé à trembler et à être obligé de consommer pour pouvoir effectuer des tâches quotidiennes, quoi. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour aller faire mes courses, que pour sortir de chez moi, il me fallait une consommation d'alcool, sinon je pouvais absolument rien faire du tout. Donc par la suite, j'ai décidé de faire une cure à l'hôpital d'Angers. Bon, ça s'est bien passé, puis un mois après j'ai recommencé, j'ai refait une deuxième cure, pareil, après c'est reparti. Et donc en 2019, je suis rentré donc en cure, donc à Cholet, un très bon centre, hein, d'ailleurs pour se sauver de l'alcool, quoi. Donc du coup, une cure qui a duré un mois, et ensuite une post-cure au Chillon, qui se situe donc au Roubaix-Conay. Donc je suis resté 3 mois là-bas, avec des activités, tous les jours de 9h à 17h. Donc très 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 bon centre. Donc j'ai pu apprendre, j'ai rencontré pas mal de gens qui étaient pareils que moi, qui avaient des soucis, alcool et autres produits. Et par la suite, donc j'ai rencontré une femme là-bas, mais donc du coup nous sommes mis ensemble après. Et donc du coup j'ai recommencé à boire. Et donc du coup cette relation est très très compliquée pour moi parce que c'était de l'alcoolisme vraiment vraiment intense, que ce soit elle et moi. Donc du coup l'alcool nous liait, donc du coup j'ai repris à boire. Et en février de cette année, j'ai consommé lors d'une soirée cannabis, alcool, et voilà. Et donc du coup je ne me suis pas senti très bien, donc mes amis ont appelé le SAMU, donc j'ai atterri 48 heures en réanimation au CHU d'Angers. Donc, il s'est suivi une hospitalisation en psychiatrie sur ma demande. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Je suis sorti de cette psychiatrie, de cette hospitalisation de psychiatrie. Donc, j'ai recommencé à boire. Et là, au mois de juin, c'est pas le 19 juin, lors d'une soirée, j'étais trop loin dans mes mots. J'ai été très, très agressif, parce que l'alcool peut rendre vraiment agressif, malheureusement. Et donc, je me suis levé après le lendemain de cette fête-là et j'ai dit stop. Et depuis, une consommation d'alcool. Heureusement, je suis suivi par ma psychologue, par ma psychiatre, pardon, tous les 15 jours, par le CNP d'Angers, aussi boulevard de Voironnais, une fois par semaine. Et donc, voilà, donc mon parcours avec l'alcool, c'est beaucoup de souffrance, et ça engendrait beaucoup de souffrance au niveau de ma famille. Ma fille n'a plus voulu me voir pendant des années. Là, j'ai eu, elle a 11 ans aujourd'hui, et donc j'ai eu des nouvelles d'elle la semaine dernière, et là, donc, elle accepte de me revoir. Mais l'alcool a causé beaucoup de dommages collatéraux, donc au niveau famille, au niveau amis, des gens qui m'ont tourné le dos, etc. Donc aujourd'hui, j'interviens pour parler un petit peu de tout ça auprès de Radio Campus, quoi.
Qu'est-ce qui vous a motivé en premier lieu à vous tourner vers des professionnels de santé pour vous en sortir ?
Un jour, je me suis dit, est-ce que je peux arrêter de boire tout seul ? En fait, j'ai essayé quelques jours, mais ça ne marche pas. C'est, concrètement, pour moi, ça n'a pas marché du tout. C'est-à-dire qu'en fait, c'est même pas une volonté de s'arrêter. En fait, c'est une prise de conscience. Donc, à partir du moment où j'ai cette prise de conscience et de me dire, à cette fameuse date du mois de juin, de me dire voilà, j'arrête. J'ai pris le rendez-vous directement avec mon médecin parce que tout seul on n'y arrive pas. C'est pas possible. Tout seul, c'est très compliqué. Et donc, le médecin était là pour moi. Pour instaurer un traitement, parce que il faut savoir aussi que les alcooliques, si la personne est vraiment atteinte profondément au niveau de l'alcool, arrêter sans médicament, arrêter seul, c'est un danger de mort. C'est-à-dire que le sevrage alcoolique peut mener à la mort. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des crises d'épilepsie, des convulsions, des arrêts cardiaques. Et donc du coup, c'est vrai que grâce à ces médicaments et grâce à l'écoute de ma psychiatre et grâce à mon addictologue aussi, j'ai pu m'en sortir. Parce que je pense que tout seul, c'est très compliqué, vraiment.
On va faire quelques précisions. Donc, d'après le site de santé amélie.fr, l'alcoolisme ou alcoolodépendance, c'est une addiction à l'alcool qui est liée à des prises répétées, excessives, urgentes et compulsives. Et une personne, comme vous venez de le dire, Andrew, qui arrête de boire brusquement, peut ressentir des effets de sevrage assez violents. Nous ne sommes pas tous égaux d'ailleurs devant la dépendance à l'alcool. Ça peut s'expliquer par beaucoup de facteurs, comme le patrimoine génétique ou l'environnement social. Andrew, je reviens vers vous. Est-ce que vous trouvez que la consommation d'alcool est trop banalisée en France ?
Alors, tout à fait. Alors moi, si vous voulez, donc, j'ai connu un petit peu ça quand j'étais jeune aussi. Vous savez que une bouteille maintenant de vodka, ça coûte environ 10 euros suivant la marque. Donc c'est-à-dire que l'alcool est banalisé, c'est-à-dire que ça fait partie un petit peu de la tradition française. Vous allez dans des repas familiaux, il y a beaucoup de vin sur la table. Vous allez boire un verre chez des amis. Moi, j'habitais dans le sud de la France. C'était chaque personne a une bouteille de pastis dans son placard. Donc c'est vrai que c'est très très banalisé. Et le problème avec l'alcool, c'est que c'est un produit qui est en vente libre et qui est très abordable. C'est-à-dire que maintenant, il y a des bières. C'est souvent quand je rentre dans les magasins maintenant, moi qui est hors alcool, que je vois, c'est un pack de bière acheté, le deuxième à moitié prix. Donc c'est-à-dire que c'est des prix très très abordables. Et donc du coup, il y a peu de prévention. C'est-à-dire que nous vendons un produit qui paraît festif, mais qui est très vicieux, parce que malgré que ce soit festif, sur le long terme, ça peut devenir vraiment très très dangereux. Et donc c'est vrai que on n'en parle pas assez, mais l'alcool est en vente libre et à bas prix. Donc du coup, vous avez des bouteilles de... Moi, en tant qu'alcoolique, avant, à la fin, je prenais des bouteilles de mousseux qui coûtaient 1,50€. Si vous en buvez 2 ou 3, voilà quoi, donc c'est catastrophique.
Au niveau social, vous trouvez que l'alcool est encore trop associé à la convivialité, à des événements festifs ?
Bah tout à fait, parce qu'il y a un petit peu un système de récompense. C'est-à-dire qu'un ouvrier va faire sa semaine, ou un commercial, un cuisinier, tout ce que vous voulez, donc va faire sa semaine, et puis bah, le soir, ou le week-end, ou le soir, tous les soirs, il va rejoindre ses potes au bar. Bon, maintenant, c'est le confinement pour l'instant, Et quand les bars sont ouverts, il va aller boire son petit verre le soir, son petit apéro le soir, et puis après ça va être le week-end, et puis après à la fin de la semaine. Donc c'est ce qu'on appelle le système de récompense, j'ai appris ça par mon médecin Vito. C'est vrai qu'il y a de la convivialité, mais quand ça devient trop convivial, ça devient très très dangereux. Il y a des gens qui réussissent à ne consommer que festivement leur verre le soir, mais après ça devient vicieux. Moi j'ai commencé comme ça, à boire un verre ou deux le soir, après c'était tous les week-ends. Et puis après, on rentre vite dans une consommation qui peut être très très dangereuse pour la santé, quoi.
Quels sont les principaux dangers liés à une consommation excessive, selon vous ?
Alors, les principaux dangers liés à une consommation excessive, alors déjà, je vais vous parler un petit peu de mon cas. Moi, quand j'ai commencé la première cure, on m'a fait une prise de sang, donc, ensuite une échographie du foie. Donc, un foie vraiment très gros, donc très terrible. Les gammages étaient élevés, donc le foie produit. Il y a aussi des conséquences qui peuvent être très très dangereuses au niveau aussi neurologique, au niveau du cerveau, donc notamment une maladie qu'on parle peu, c'est la maladie de Korsakoff, qui est une carence en vitamine B1, et on détruit complètement les personnes au niveau mémoire, etc. Et il y a aussi, on en parle très peu, et il y a aussi des problèmes pour les hommes de libido, pour les femmes aussi, il peut y avoir aussi beaucoup de problèmes au niveau du cardiovasculaire, les problèmes de diabète. Moi, l'alcool m'a rendu diabétique. Et beaucoup, beaucoup aussi de problèmes d'estomac, d'un ulcère à l'estomac. Il y a beaucoup de personnes aussi qui font ce qu'on appelle, ils ont de l'eau qui rentre dans leur estomac tellement en fait le foie est engorgé. Donc c'est très, très dangereux. Il y a beaucoup de maladies qu'on ne connaît pas. Ça peut donner des cancers, évidemment. Des cancers de la langue, des cancers du foie. Il n'y a pas que le cancer du foie, des cancers de la langue. Ça peut donner plein de cancers et plein de choses néfastes.
Votre témoignage, pourquoi est-ce que vous acceptez de vous livrer aussi facilement, aussi ouvertement ?
Et j'ai eu une prise de conscience, notamment il y a 15 jours, 3 semaines. Je me suis posé la question de me dire, mais en fait, qu'est-ce que tu retiens de ton alcoolisme ? Et j'en ai retenu beaucoup de choses. Je me suis dit, à l'époque où je consommais, quand j'étais jeune, j'aurais bien aimé que quelqu'un me parle ouvertement de ce problème. Et je pense que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas assez médiatisé, on n'en parle pas assez. Et donc du coup, aujourd'hui, j'en parle assez facilement, parce qu'au début, j'avais un sentiment de honte. C'est-à-dire que quand j'étais alcoolique, je me cachais pour boire. Et maintenant, j'ai pas envie de me cacher en me disant « non, je ne bois plus ». Donc j'en parle ouvertement, de façon à pouvoir aider les gens, notamment en ces périodes très difficiles, de confinement, etc. Et moi, je vois, je suis donc au CMP à Angers, et l'infirmier du CMP, m'a clairement dit, il y a des gens qui allaient bien, et qui ne vont pas bien du tout, il y a des gens qui n'allaient pas bien du tout, qui vont encore plus mal vis-à-vis de l'alcool. Et donc, moi j'en parle ouvertement, je pense que j'ai reçu une sacrée leçon de souffrance à une époque de ma vie, et donc aujourd'hui, j'ai besoin d'extérioriser et puis de parler de ça sans tabou, une maladie comme une autre. C'est plus, vous savez, la maladie alcoolique, c'est une maladie des émotions pour moi. C'est une maladie de l'émotion, donc du coup, le partage d'expérience, vis-à-vis de ça, me semble vraiment très important, et si je peux éventuellement aider ou ouvrir l'esprit à certaines personnes, et ben je le fais, quoi.
Toujours dans ce processus de guérison, vous administrez le groupe Facebook Se sortir de la bouteille. Comment est-ce qu'il a été créé, ce groupe ?
Alors, ce groupe Se sortir de la bouteille a été créé par Virginia Monet, personne formidable, qui a notamment écrit le livre Noyé dans l'alcool, donc il y a eu aussi un problème d'alcool. Je faisais partie d'un groupe, donc un groupe Facebook qui s'appelait Voir tous les gens que font de son verre, et donc elle y était membre aussi. Un jour, elle est venue m'interpeller sur mon Messenger, car je lui ai fait une demande d'amis. Je savais qu'elle avait écrit un livre et tout, j'avais son bouquin et tout. Et donc elle m'a proposé donc de devenir administrateur du groupe. Donc j'ai accepté. J'ai compris pourquoi après elle m'avait demandé de devenir administrateur. Elle avait senti que j'avais besoin de reprendre confiance en moi et de partager avec les gens. Du coup, ce groupe, au début, on a commencé vraiment, on était 2 ou 3 personnes, 10aine de personnes. Aujourd'hui, on est à peu près 140 personnes, il y a 140 membres. Voilà, quoi. Ce groupe a été créé vraiment au début dans un but d'aider les gens, de parler un petit peu de l'alcool. C'est un groupe qui est ouvert à tout le monde.
Est-ce qu'il y a un profil type de personnes dépendantes sur le groupe ?
Alors non, du tout. Il n'y a pas du tout ce profil type. C'est vraiment, enfin en tout cas dans notre groupe, il y a tout âge, hommes, femmes, différentes classes, des gens qui viennent de la classe moyenne, des gens qui sont au chômage, des gens qui sont ouvriers, des gens qui sont patrons. Il n'y a vraiment, vraiment pas de profil type du tout. Et c'est ce qui est vraiment très enrichissant, parce que on peut discuter avec plein de personnes avec plein de mentalités différentes et plein de personnes avec beaucoup d'aisance, quoi.
Quel conseil on peut trouver sur ce groupe ?
C'est un groupe où la liberté d'expression prime. Les gens peuvent exprimer, peuvent mettre une musique, peuvent mettre ça va pas dans la journée. Là en ce moment c'est leur sapin de Noël. Donc du coup nous, les gens, on les oblige pas à partager. Ils sont là, s'ils veulent intervenir, mettre des likes, commenter faire les posts des uns des autres. Mais après nous c'est vrai qu'on voit quelqu'un qui est en détresse et qui a des difficultés, on va l'orienter, on va lui dire bah écoute peut-être qu'il serait bien que tu ailles voir ton médecin, peut-être qu'il serait bien que tu ailles voir une association comme Vivive. Il y a les Vivive, il y a Alcool Assistance, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place, mais il faut déjà commencer par voir son médecin traitant quand ça va pas. On voit qu'on commence à aller très loin dans l'alcool. Je pense qu'il faut vraiment, vraiment consulter son médecin traitant qui ensuite peut orienter vers un médecin addictologue. Et notamment, il y a des centres sur Angers comme les Omédine qui font partie du réseau donc du Chillon et le fameux hôpital de jour. Je conseille vraiment fortement aux gens qui ont un problème avec l'alcool de déjà commencer par consulter leur médecin traitant.
En ce moment, c'est quoi le ressenti des personnes du groupe vis-à-vis de l'approche des fêtes de fin d'année ?
Alors justement, nous avons fait un sondage vis-à-vis des fêtes de Noël pour savoir où on était un petit peu les gens par rapport à ça. On s'est aperçu qu'il y a des gens en fait qui craignent un peu Noël quand même. Qui craignent un peu Noël et puis les fêtes, enfin la fête du jour de l'an. Parce que c'est des fêtes où il y a de l'alcool, où il y a aussi souvent des réunions de famille. Alors des fois on s'entend pas avec un ni avec l'autre. Donc ça peut créer aussi des discordes. On sait très bien que l'alcool peut créer beaucoup de choses. Des disputes, etc. Et donc les gens, bah, ils sont un petit peu méfiants au niveau de ces fêtes-là. Donc ils sont un petit peu, notamment une personne sur un groupe qui, enfin sur ce groupe qui a dit, bah moi je sais pas comment je vais faire pour Noël, j'ai un peu peur, etc., etc. Quoi. Donc bah nous, ce qu'on peut leur conseiller, vous savez, il y a pas 50 000 solutions. Hein. Après, on peut pas s'empêcher de faire Noël, mais après, si vraiment on se sent pas capable d'y aller, il ne faut pas y aller. Après, si on se sent capable d'y aller, il faut y aller aussi. Mais les gens qui sont encore fragiles ont beaucoup de difficultés à se projeter au niveau de ces fêtes de fin d'année.
Pour terminer, quels sont les mots que vous aimeriez adresser aux personnes qui connaissent des difficultés avec l'alcool ?
Pour les gens qui ont des difficultés avec l'alcool, j'aimerais simplement leur dire que tout est possible, qu'on peut s'en sortir, hein, qu'il y a des centres spécialisés, qu'il y a des médecins, qu'il y a des psychologues, qu'il y a notamment aussi des groupes, que ce soit le groupe Se sortir de la bouteille ou d'autres sur Facebook, vous pouvez trouver multiples groupes. Après, il faut surtout faire attention à qui on s'adresse et où on va. Pour ces gens qui sont en détresse, et généralement les gens qui sont dans l'alcool, en fait, rentrent dans une solitude. Dans une solitude, et ils rentrent dans une solitude, et donc généralement, ça va générer une dépression. Donc du coup, c'est des gens qui... Enfin, moi, en tant qu'ancien alcoolique, je me sentais pas compris. Donc il faut surtout pas hésiter à sortir de cette bulle. Et c'est pas une question de volonté, parce que je pense que c'est plus une prise de conscience, comme je vous disais au début de l'interview. Du coup, c'est une prise de conscience et de se dire qu'on peut se faire aider, qu'on a la chance en France d'avoir quand même pas mal de centres, pas mal de choses. Et surtout, ne rien lâcher, et que demain peut être un jour nouveau. Mais surtout, ne pas essayer d'arrêter de boire seul, sans l'aide d'un médecin, sans l'aide d'un traitement. Car ça peut être très 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 dangereux. Ces personnes-là, je leur souhaite beaucoup de courage et pourquoi pas, s'ils veulent venir nous rejoindre sur le groupe, je le répète une nouvelle fois, il y a des possibilités de s'en sortir vraiment.
Merci beaucoup Andrew pour tous ces mots d'encouragement.
Je vous remercie aussi de m'avoir accordé un peu de temps.
Vous pouvez trouver donc du coup de l'aide sur le groupe Facebook Se sortir de la bouteille, qu'on mettra en lien sur nos publications, ainsi que sur le site alcool-assistance-49.fr pour trouver de l'aide dans le département du Maine-et-Loire.
Merci Clémence pour cette interview. Quant à nous, on se retrouve pour la chronique d'Amandine à la fin de cette émission. Ça sera juste après l'IRAS et le titre Chape Grey.
Zirek ul zada, bechodet ul dodi. شده سیگار بکشی که یادت بره فقط اونی که عاشقشی گفته بیزاره ازت تا حالا دیدی با چشمای خودت دست زندگی تو دست کسی به اونی که آرزود بوده اون شده آرزو کنی که نرسی تو کدوم شب گریه از چشم
dans la Covidienne sur Radio Campus Angers. Il nous reste le temps d'écouter la chronique de la semaine d'Amandine qui nous parle aujourd'hui de ces mots qu'on a tant utilisés qu'on en perd un peu le sens.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquillement. Ça fait plusieurs jours que je réfléchis à ces expressions ou à ces mots qu'on utilise à outrance et qui finalement s'éloignent petit à petit de la définition qui leur a été attribuée au début. Je pense notamment à l'expression « c'est chouette ». C'est une phrase que j'utilise très souvent. Et au final, je sais plus très bien ce qu'elle veut dire. Elle remplace le sobre, c'est bien, qui semble trop neutre pour réellement décrire un goût ou donner un avis. C'est chouette, je sais pas, ça fait enjouer, il y a quelque chose de joyeux. Hein, c'est bien. Ça paraît trop commode, un peu comme une formule de politesse pour éviter de dire que c'est pas si bien que ça. C'est comme le mot gentil, gentille. Quand tu dis cette personne est gentille, c'est presque une insulte. C'est le minimum syndical de la politesse pour ne pas dire inintéressante. Dire qu'une personne est gentille aujourd'hui, ça veut dire qu'on a foncièrement rien à lire dessus. Quelqu'un de gentil, c'est pas un compliment. Tout le monde est gentil en soi. Enfin, non, mais un peu, enfin... Enfin bref. Je trouve ça assez drôle, l'usage des mots, le sens qui, petit à petit, glisse vers un autre. Et en fonction du contexte, ça veut plus du tout dire la même chose. Je trouve ça assez beau, finalement. Mais là, je me trouve un peu bloquée. Je dis toujours les mêmes mots et ça me saoule. Surtout avec le mot « cool ». Ça fait quand même un bout de temps que « cool » a éradiqué tous les autres mots qui servent à la description des jantes, des ambiances, des objets et des lieux. On dit que les jantes sont cool. Ouais, le concert était cool, la vie est cool. Tu m'as pas répondu, c'est pas cool. Ouais, ce truc est cool. Mais cool, 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 qui veut dire quoi cool ? C'est quoi être cool ? Aujourd'hui, j'ai l'impression que la police du swag a été remplacée par le ministère de la coolitude. Être cool, c'est la norme. Si t'es pas cool, bah c'est pas cool. J'ai l'impression qu'il n'y a rien entre cool et ringard. D'ailleurs, j'aime bien ce mot parce que le mot ringard est ringard. Mais bref. Mais en fait, même les ringards, ils arrivent à être cool aujourd'hui. Et finalement, c'est même la palme d'or de la coolitude d'être ringard et cool. Tu vois ce truc? Et ouais, même en étant ringard, je suis cool. Je suis tellement cool qu'être en ringard me rend encore plus cool. Mais c'est un peu snob, non? Parce que le vrai ringard, bien ringard, il est pas cool du tout, hein, moi je vous le dis. Non, mais j'ai l'impression que parfois il y a une espèce de course à qui sera la plus cool. Avec un point bonus pour celles qui le sont en prétendant ne rien faire pour l'être. Mais être cool, ça se travaille, hein. Surtout sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut être cool. Ou du moins le paraître. Et être cool, c'est pas tellement un trait de caractère en soi, hein. C'est surtout le signe que tu suis certains codes. Être cool, c'est une manière d'être, une façon de parler, une manière de s'habiller, c'est des goûts, des avis, des tendances, etc. Et tout ça, c'est finalement ce qui te rend intéressante aux yeux des autres. T'as envie de parler avec quelqu'un de cool. Quelqu'un qui est pas cool, bah t'as pas envie, quoi. Je crois que cool, c'est un mélange d'être sympa, intéressante, à la mode. Avant, on disait stylé. Maintenant, on dit cool. Cool tes vêtements, cool ta vie. Enfin non, du coup bah, là ça marche pas. Mais moi ça m'embrouille tout ça. Je sais plus quel mot utiliser, j'en ai marre de dire tout le temps chouette et cool. Si on pouvait vite passer à d'autres mots, franchement ça serait chouette. Putain, mais voilà, j'ai encore dit. Je sais pas quel mot utiliser à la place, hein, c'est terrible. Ah, bon, je vous laisse, j'ai rendez-vous avec une meuf que j'ai rencontrée qui est trop trop cool. Prenez soin de vous.
Et merci Amandine pour cette chouette chronique. Quant à nous, il est déjà l'heure de nous quitter. Ce soir, retrouvez 3615 Chill Out et Electric Troubles sur les ondes de Radio Campus. Et nous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle Covidienne. D'ici là, portez-vous bien. Très belle soirée à toutes et à tous.